RFI, grand reportage, Patrick Adam.
Bonjour, nous sommes le 27 avril. Cela vous dit quelque chose ? Le 27 avril 1994, en Afrique du Sud, les premières élections libres. Cette date, on dit aujourd'hui que c'est le jour de la liberté qui marque la fin de l'apartheid. Depuis, c'est un jour férié. Trois décennies plus tard, il n'y a pas que le temps qui a passé, d'illusion en déception, du rêve à la réalité. Cette Afrique du Sud d'aujourd'hui, le présent au regard du passé, c'est à entendre dans un instant. Et puis dans 20 minutes, on appelle Johannesburg. L'Europe veut se verdir, se fixe des objectifs, souvent réduits pour espérer les tenir. Il y a peu, dans ce même rendez-vous, nous étions à Košice, en Slovaquie, au chevet de l'industrie lourde. Aujourd'hui, reportage plus rural, toujours en Europe de l'Est, Agnieszka Kumor nous emmène en Slovénie, dans la vallée de la Vipava, entre vignes et vergers, comment favoriser le développement durable. Bienvenue dans le supplément au grand reportage. C'est le temps d'un bilan en Afrique du Sud pour le Congrès national africain, l'ANC. Il y a 30 ans, des files interminables se formaient à l'extérieur des bureaux de vote pour le tout premier scrutin multiracial. Avec l'élection de Nelson Mandela, les Sud-Africains écoutaient plein d'espoir les promesses de son parti et rêvaient d'une société arc-en-ciel pour tourner la page de l'apartheid. Aujourd'hui, la corruption et les limites des politiques publiques sont passées par là. Les trentenaires, à qui on avait prédit une vie meilleure, ont vécu des expériences très différentes qui reflètent les défis du post-apartheid. Afrique du Sud, 30 ans plus tard, que deviennent les enfants de la liberté ? C'est un grand reportage de Romain Chanson et Claire Bargelès.
Février 2024. Comme chaque année à cette période, le président Cyril Ramaphosa se rend devant les parlementaires habillés sur leur 31 pour le traditionnel discours sur l'état de la nation. Un discours un peu particulier cette fois-ci puisqu'il s'agit du dernier avant les élections et l'occasion de faire un bilan des 30 années au pouvoir de l'ANC.
Le 27 avril 1994, des millions de Sud-Africains ont déposé leur bulletin lors d'une élection démocratique. Et pour beaucoup, c'était la première fois de leur vie. Ce jour historique signait l'aboutissement de siècles de lutte. Une lutte pour libérer notre peuple de la souffrance, de la dépossession, de l'oppression et de l'exploitation, ainsi que de la pauvreté et des inégalités.
Cyril Ramaphosa se lance alors dans le portrait imaginaire d'une jeune trentenaire qui s'appellerait Tine Swallo et qui aurait bénéficié des politiques mises en place depuis 30 ans par le parti historique de Nelson Mandela.
Tine Swallo, democracy's child, grew up in a society...
Tine Swallo, cet enfant de la démocratie, a grandi dans une société gouvernée par une constitution basée sur l'égalité, l'état de droit et l'affirmation de la dignité inhérente à chaque citoyen. Les premières années formatrices de Tine Swallo ont été passées dans une maison mise à disposition par l'État. Tine Swallo a pu aller à l'école sans que ses parents n'aient à payer de frais de scolarité. Lorsqu'elle est entrée dans le monde du travail, elle a pu progresser et s'épanouir grâce au soutien des politiques d'équité en matière d'emploi et aux stratégies de discrimination positive. Et ceci est l'histoire de millions de personnes qui sont nées à l'aube de notre démocratie. Mais il est bien vrai que ce n'est qu'une partie de l'histoire.
La démocratie sud-africaine a-t-elle vraiment enfanté des Tine Swallo, des femmes dont l'ascension sociale serait le fruit des efforts du gouvernement envers les plus démunis ? Nous prenons l'ascenseur pour retrouver une avocate qui nous attend dans le quartier chic de Sandton à Johannesburg. Elle a 32 ans, elle vient d'un milieu modeste et désormais elle plaide parfois devant la Cour constitutionnelle.
My name is Sinako Lindazwe.
Je m'appelle Sinako Lindazwe. Je suis née à Colesberg, une ville pauvre de la province du Northern Cape. C'est une petite ville où seuls les plus chanceux peuvent s'en sortir. Il y a de la pauvreté, le chômage est au plus haut, les jeunes se mettent à boire. J'ai eu la chance d'avoir une enseignante qui a dit à ma mère que j'étais une élève brillante et qu'elle devait faire en sorte de me sortir de là.
Sinako a été élevée par sa mère, secrétaire dans un hôpital, et qui a souscrit à un prêt pour la scolariser dans de bonnes écoles. Elle a ensuite financé ses études universitaires grâce à un job étudiant, une allocation du gouvernement, ainsi qu'une bourse de la région grâce à ses résultats scolaires. Nous lui faisons lire le discours du président Cyril Ramaphosa sur Tinswalo.
Elle est née dans une société à des années-lumière de l'Afrique du Sud qu'ont connu ses parents, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents. J'admets que ma mère n'a pas eu la chance d'étudier. Elle n'est pas diplômée, contrairement à moi. Mais je ne le dois pas au gouvernement. Je le dois à ma mère, qui a voulu faire bouger les choses pour ma famille. Si j'avais attendu le gouvernement, est-ce que j'en serais là, honnêtement ? La réponse est non. Plus loin dans le discours, ils disent « Quand Tinswalo est rentrée dans le monde du travail, elle a été capable de progresser et de prospérer. Avec l'argent qu'elle a gagné, elle a pu épargner. Mon Dieu, mettre quel argent de côté ? C'est un drôle de discours. Je ne sais pas qui est cette Tinswalo, mais ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas noire. » Si je n'avais pas eu la volonté nécessaire, aujourd'hui, je serais à Colesberg. Je serais en train de boire comme les autres. C'était une question de volonté. Sinako, en Kosa, ça veut dire « on peut ». On peut triompher, on peut surmonter, on peut s'améliorer. Tinswalo, c'est juste le fruit de l'imagination de quelqu'un. C'est ce à quoi aurait dû ressembler l'Afrique du Sud.
Le portrait de Sinako renvoie l'image d'une réussite individuelle arrachée au forceps. Mais combien de Sinako pour des millions de jeunes Sud-Africains diplômés et sans emploi ?
Mon nom est Soraya Williams, j'ai 32 ans. Juste après mes études, j'ai obtenu un emploi au sein d'une entreprise de construction. Ça a duré 8 ans, mais après le Covid, elle a dû fermer. Et c'est à ce moment-là qu'on a tous été licenciés.
Presque un Sud-Africain de moins de 35 ans sur deux est touché par le chômage, comme Soraya. Et malgré tous ses efforts, impossible de retrouver un emploi après la pandémie, d'autant qu'elle vient du township métis de Westbury, à la très mauvaise réputation.
C'est vraiment dur de trouver un boulot quand on est jeune en Afrique du Sud. On postule, mais c'est difficile à cause de notre milieu. Ou peut-être parce que j'ai travaillé auparavant plusieurs années et les entreprises pensent que je serais trop chère à employer. La plupart du temps, en tant que personne métisse, nous sommes marginalisés et nous ne trouvons pas de travail à cause de nos noms de famille ou de là où on habite. On n'obtient pas non plus de recommandations. Il y a énormément de jeunes au chômage dans nos communautés et il y a beaucoup d'opportunités auxquelles nous n'avons pas accès.
Grâce à une maison des jeunes active dans le quartier, Soraya fait désormais du bénévolat au sein d'une organisation de lutte anti-drogue. Elle reçoit en échange un petit défraiement, mais tout juste de quoi faire survivre sa famille.
J'ai mon père qui est à la retraite et mon frère qui ne travaille pas. Et j'élève aussi mes 4 enfants. Dans une famille, c'est courant de trouver seulement une personne qui travaille, tellement l'économie est mauvaise ici. Mais bon, que faire d'autre que continuer à se battre pour obtenir ce qu'on veut ?
Des exemples comme celui-ci, Bridget Monick, la responsable du centre des jeunes, en voit passer sans arrêt. Elle devait organiser un atelier ce matin, finalement annulé car le township est endeuillé après un week-end de fusillade entre gangs.
Le chômage, c'est vraiment la crise principale au sein de nos communautés. Si vous êtes jeune et sans emploi, vous êtes prêt à tout pour gagner un peu d'argent. C'est-à-dire que vous pouvez tomber dans la drogue et la vendre ou faire des cambriolages. Tous les problèmes dans notre quartier, c'est à cause du chômage. Si seulement le gouvernement pouvait donner à nos jeunes des choses à faire, tout cela n'arriverait pas. J'ai le cœur gros face à ce que traversent nos communautés.
La situation rend Soraya très amère vis-à-vis des promesses de la démocratie.
Non, c'est très décevant, car si on écoute les histoires de l'apartheid, les gens avaient du travail à l'époque, même les Noirs. Alors certes, je n'ai pas connu cette période, mais ça me donne la sensation que ces années étaient finalement meilleures comparées à aujourd'hui.
Des propos qui font frémir les générations qui se sont battues contre le régime ségrégationniste et qui ne sont pas rares dans la bouche de ceux que l'on surnomme les « born free », nés libres avec la démocratie. Certes, l'Afrique du Sud a développé un système d'allocation sociale qui offre une petite base à près de 30% de citoyens et a également mis en place une aide supplémentaire post-Covid. Mais cela ne suffit pas, alors qu'un cinquième de la population continue de vivre sous le seuil de pauvreté dans un des pays les plus inégalitaires au monde. Si elle regarde ses conditions de logement, Bouli sent aussi la colère monter et ne se retrouve pas du tout dans l'histoire de Tinswalo.
Vous voulez voir à l'intérieur ? C'était une seule pièce, mais je l'ai divisée comme ceci pour avoir un peu d'intimité. J'y habite avec ma tante, ma grand-mère, ma nièce, mon neveu et mon garçon. Ma grand-mère et moi, on dort dans ce lit-là. Ma tante dort ici. Et ensuite, on sort un matelas en mousse pour que tous les autres dorment par là.
Bouli, qui garde un sourire accueillant et arpente les rues avec énergie, habitait jusqu'en 2017 à Soweto. Et la chambre qu'elle louait dans le jardin d'une maison était trop chère pour son petit salaire de 300 euros qu'elle gagne au sein d'une agence du gouvernement. Comme des centaines d'autres personnes, elle est alors venue construire illégalement un abri en tôle sur ce terrain public, loin au sud de Johannesburg.
C'est devenu immense. De ce côté-là, il y a d'autres cabanes, et même jusque là-bas. Quand il fait chaud, il fait vraiment très chaud dedans. Et pareil quand il fait froid. On n'a pas l'électricité et même les ordures, on les entrepose là-bas. Moi, je me lave ici, je mets la bassine juste là et les toilettes sont installées dehors.
La mère de Bouli avait dans les années 2000 déposé une demande pour obtenir un des logements sociaux promis par l'ANC, mais elle est décédée sans avoir eu aucun retour. La jeune trentenaire sait que sa situation est désormais précaire puisque les autorités pourraient un jour ou l'autre venir la déloger.
Pour moi, avant, c'était trop cher. Et il faut bien que je survive, je dois acheter de la nourriture pour les enfants et les envoyer à l'école. Donc j'ai décidé de bouger ici pour pouvoir économiser le loyer. Je ne peux pas acheter de maison car on m'a dit que je ne rentrais pas dans les critères pour un prêt à cause de mon faible salaire. C'est très triste tout ça. Nous, on vote à chaque fois, mais l'ANC nous a laissé tomber. On attend des logements depuis 1994 et aujourd'hui, on vit toujours dans ces conditions.
Si accéder à un logement décent est un défi pour nombre de Sud-Africains noirs, l'accès à la terre est aussi un parcours du combattant. Dès 1913, une loi leur en limitait la possession à 7% du territoire. Depuis 30 ans, le gouvernement essaie de corriger cette inégalité, notamment avec des politiques de redistribution. Mais le fossé est encore énorme. En 2017, plus des deux tiers des terres agricoles détenues par des individus étaient entre les mains de propriétaires blancs. Ils sont pourtant nombreux, les jeunes agriculteurs noirs qui voudraient posséder leurs terres. Ils se retrouvent lors d'un salon organisé à Pretoria, parmi eux Lerato, 29 ans, élégante dans une robe couleur tournesol.
Je suis maraîchère spécialisée dans la culture des herbes aromatiques et différentes variétés de salades. Je voudrais au moins 30 hectares. J'ai déjà trouvé des terres qui m'iraient bien, où je pourrais soit installer des infrastructures, soit utiliser celles qui y sont déjà. Je crois que le gouvernement a acquis plus de 2 millions d'hectares de terres agricoles à travers sa réforme agraire. Donc oui, la terre est disponible pour l'agriculture, mais les démarches administratives sont trop lourdes, il y a trop de barrières à l'entrée.
L'ANC avait pour objectif de redistribuer 25 millions d'hectares de terres agricoles dès 1999, mais en 2015, seulement 9 millions l'ont été. Lerato pourrait essayer d'acheter les terres de son côté, mais là encore, il y a un blocage, les banques sont réticentes.
Je pense qu'on est traité très différemment à la banque. J'en ai fait l'expérience. J'ai un nom de famille associé au blanc, donc le comportement des banquiers est très différent quand j'échange avec eux par email ou quand ils me voient. C'est la réalité de ce pays. On est traité différemment. Quand vous sollicitez les banques commerciales surtout, elles vous demandent un apport de 40%. Donc si vous trouvez une ferme qui coûte 10 millions, vous devez apporter 4 millions. Mais en tant que jeune agricultrice noire, quelle est la probabilité d'avoir 4 millions dans son compte en banque? Et si c'était le cas, j'aurais déjà acheté les terres moi-même.
Malgré ses freins à l'entrepreneuriat, Lerato n'adhère pas aux revendications les plus radicales. Le Parti des combattants pour la liberté économique milite par exemple pour une expropriation des fermiers blancs sans dédommagement.
Il y a de la colère, c'est vrai. C'est lié au récit que la terre a été volée et qu'on voudrait la récupérer maintenant. Mais je ne pense pas qu'il faille combattre le feu par le feu. Il y a un moment où, en tant que pays, il faut commencer à travailler ensemble. Notre histoire est malheureuse, mais pour quelqu'un qui est né 3 mois après l'avènement de la démocratie, je ne peux pas m'accrocher au soubresaut du passé, je dois aller de l'avant. Ma grand-mère était ouvrière agricole dans un vignoble du Cap où elle était payée en vin. Entre ce qu'elle était et ce que je suis devenue, j'ai vu le changement. On n'a jamais eu de terre car on a grandi à Johannesburg où ma grand-mère pensait que ça serait plus simple de trouver du travail en ville plutôt qu'au village. Pour moi et ma famille, le fait que l'on retourne à nos racines, je trouve que c'est une belle évolution.
Ne pas rester prisonnier du passé et de ses fractures. Ce désir vaut-il aussi en amour? Est-ce que les couples mixtes, interdits sous l'apartheid, sont de plus en plus acceptés? Carla, 27 ans, et Connor, 31 ans, nous reçoivent assis sur leur canapé chez eux à Johannesburg. Elle est métisse, originaire du township d'Athlone, au Cap. Elle vient d'une famille conservatrice. Lui est blanc, fils de parents aux origines européennes, une famille libérale. Ils se sont rencontrés au travail en 2021. Et avant de se mettre ensemble, leur relation a été l'objet d'une intense réflexion pour Carla.
C'est la première fois que je sors avec quelqu'un qui ne vient pas de ma culture ou qui n'a pas la même couleur de peau. Je viens du Cap, qui est une ville plutôt ségrégée, où les métis restent ensemble, les noirs restent ensemble, pareil pour les blancs. Donc quand j'ai commencé à voir Connor, j'étais un peu stressée à l'idée de savoir ce que pourraient penser mes parents et mes amis. Il n'y a pas beaucoup de couples mixtes au Cap ou dans ma communauté. Mais en fait, ça n'a pas posé problème. Mes parents n'y ont pas accordé trop d'importance. Ils ont fait des blagues ou ils m'ont titillé, mais en vrai, ce n'était pas un problème.
Moi, je n'étais pas du tout stressé, je n'ai pas eu à m'inquiéter de ce que mes parents pourraient penser ou dire. Je savais qu'ils seraient heureux de rencontrer Carla, et je pense que ça renvoie l'image d'un certain privilège où le vécu d'une famille la rend nerveuse et l'invite à être plus protectrice ou méfiante.
Je dois dire que je t'ai étudié. Il a fallu que je m'assure que tu faisais partie des blancs sympas. C'est vrai que j'ai été confrontée à davantage de racisme de la part des blancs afrikaners. Mais ce que j'aime chez toi, c'est que tu ne parles même pas afrikaans. Je me suis dit, parfait, il est blanc, mais il est différent. Je ne voulais pas finir par subir des choses qui me déplaisent. J'étais très méfiante au début. Je voulais savoir comment tu te comportes avec les gens. Mais pour le moment, tout se passe très bien.
Oui, il faut en être conscient. On ne pourrait pas être ensemble si on ne gardait pas ça à l'esprit. D'habitude, je n'ai pas à me soucier de discrimination raciale, mais quand on marche ensemble, Carla en fait l'expérience, et moi avec elle. Et quand on a visité un appartement, un agent immobilier a dit des choses horribles. Il a fallu qu'on s'en aille et qu'on en discute. On sait ces choses-là, mais soudain, vous êtes confronté à la réalité de ce qu'est un privilège. C'était une super conversation.
C'était beaucoup plus détendu que ce que je craignais. Tu veux jouer quelle musique?
Where the flowers grow.
Okay.
Sinako, Souraya, Bouli, Lerato et Carla ont des parcours plus nuancés que le modèle de Tin Swallow, mis en avant par le gouvernement de l'ANC. 30 ans de démocratie n'ont pas suffi pour réparer les inégalités d'un pays qui devra miser sur ses futures générations pour rester uni.
Boy,
Bonjour Romain Chanson.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Vous êtes l'un des correspondants en Afrique du Sud de RFI. Vous signez donc avec Claire Bargelès ce grand reportage que vous avez choisi de terminer par une histoire d'amour, celle d'un couple mixte. Alors, est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle? Autrement dit, est-ce que ce couple, vous avez vraiment voulu le trouver? Est-ce que ça a été difficile?
Alors non, des couples mixtes, finalement, on en a trouvé assez facilement. Je dirais qu'on en avait présélectionné 5 ou 6 parmi nos connaissances, nos amis. Mais ce qui était difficile, c'était de trouver un couple qui allait accepter d'aller sur le canapé, sur le sofa, de se confier et d'interroger aussi la nature de leur relation, d'évoquer la question de l'identité, de l'origine, de la race, comme on dit ici en Afrique du Sud. Alors comme on l'a entendu dans le reportage au début de l'entretien, c'est un peu compliqué. Carla, que nous interrogeons, elle est stressée. Moi, j'avais aussi l'impression de les déranger. J'arrive un dimanche soir avec mes gros sabots et mes questions de journaliste pour interroger leur couple. Eh bien, en fait, non, ça s'est bien passé. Ils ont joué le jeu, ils se sont même un peu amusés, titillés. Et de toute façon, c'est une conversation qu'ils ont eue. Il est blanc, elle est métisse. Voilà, ils ont déjà discuté de ces différences. J'en ai aussi profité pour leur rappeler, et peut-être pour les faire réagir, sur le fait que les couples mixtes, ils ont été interdits sous le régime d'apartheid. C'est même l'une des premières lois qui avait été passée par le Parti national qui prend le pouvoir en 1948 et dès l'année suivante, il interdit les mariages mixtes. Bon, ça, ils y pensent pas, en fait. C'est le passé. Ils avaient même pas ça en tête. Pour eux, ils se concentrent sur le présent et sur leur couple.
Le titre de votre reportage, Afrique du Sud, 30 ans plus tard, que deviennent les enfants de la liberté? Vous avez choisi de vous intéresser plus particulièrement aux femmes. Pourquoi ce choix?
Eh bien, on a voulu prendre le président Cyril Ramaphosa au mot, puisque, en fait, dans un discours en février, il a fait l'éloge d'une jeune femme qui s'appellerait Tinswalo et qui serait l'exemple parfait d'une réussite grâce aux aides sociales de l'État. Et ce que montre notre reportage, c'est que Tinswalo n'existe pas. Voilà, on ne l'a pas trouvé. Et ce qui est amusant, c'est que quand on a contacté Sinako, qui est la jeune avocate brillante que l'on rencontre en début de reportage, eh bien moi j'avais l'idée que ce serait la parfaite Tinswalo. Je me suis dit, franchement, c'est son parcours, c'est elle dont parle le président Ramaphosa. Elle vient d'un milieu modeste, elle a bénéficié de bourses. Aujourd'hui, elle aide des jeunes avocats à réussir. Eh bien en fait, quand je lui ai soumis cette définition, elle l'a complètement rejetée. Elle a dit, ça c'est pas moi. Tinswalo, elle n'existe pas. Elle l'a rejetée pour opposer plutôt sa réussite personnelle, un peu à l'américaine, vous savez, ça serait une self-made girl, on pourrait dire. Et ça, en fait, ce rejet, c'est problématique pour le gouvernement, l'ANC, qui est au pouvoir et qui est en campagne pour les élections du 29 mai, donc dans un mois. Voilà, si la génération pour laquelle le gouvernement a travaillé n'est pas reconnaissante, 30 ans plus tard, eh bien, c'est des jeunes qui ne vont pas voter pour eux. Et donc, c'est un souci de dire, ça fait 30 ans qu'on travaille pour vous, mais en fait, non, c'est pas suffisant. Et les jeunes, les trentenaires d'aujourd'hui, ils ne se reconnaissent pas dans les efforts de l'ANC. Donc, ils vont pas voter pour eux. Et donc, ça signera le déclin du parti au pouvoir.
Alors, votre collègue Claire Bargelès l'a aussi évoqué dans le reportage, le manque de sécurité, c'est un autre problème auquel est confrontée l'Afrique du Sud. Et elle-même en a fait l'expérience dans un quartier de la communauté métisse.
Oui, exactement. Elle devait assister en fait à une formation organisée par un centre pour les jeunes dans ce quartier de Westbury. D'ailleurs, j'habite pas très loin de ce quartier. C'est un township métis à l'ouest de Johannesburg. Et donc, Claire, elle devait assister à cet atelier. Vous voulez parler de chômage, des difficultés à trouver un emploi. Sauf que quand elle y est allée, eh bien, les participants, ils sont restés chez eux. Ils sont restés à l'abri parce qu'en fait, tout le week-end, il y avait eu des règlements de compte entre gangs. Il y avait eu des coups de feu qui avaient fait plusieurs morts. Et ça arrive assez régulièrement puisque lors d'un premier rendez-vous sur place, déjà, il y avait eu des coups de feu dans la rue adjacente au centre et ça avait provoqué la panique des résidents. Et en fait, cette situation, elle rend les jeunes de ces quartiers très amers face aux avancées du pays. Ces jeunes, notamment de la communauté métisse, qu'on appelle ici des colored depuis l'apartheid, c'est une génération qui se sent abandonnée par le gouvernement de l'ANC parce qu'ils ne sont pas noirs. Donc, ils sont un peu entre les deux, ni blancs, ni noirs. Ils sont colored, ils sont métisses, ils se sentent oubliés. Et donc, pour eux, c'est vrai que c'est difficile de croire en un avenir meilleur alors qu'ils voient leur quartier sombrer dans la drogue, dans la violence des gangs et que la police, elle n'intervient pas pour maîtriser la situation.
Merci Romain Chanson, vous signez donc avec Claire Bargelès ce grand reportage à quatre mains, Afrique du Sud, 30 ans plus tard, que deviennent les enfants de la liberté. Sur RFI, grand reportage, le complément du samedi, deuxième partie.
Nous avons abordé la question du climat de manière inédite, à partir d'éléments de base récoltés auprès des populations locales, et ce afin de trouver des solutions à une échelle plus grande. À présent, presque 10 ans après, une mise à jour de cette méthode s'impose, une sorte de vision pour Vipava 2.0.
Nichée entre les Alpes juliennes et la mer Adriatique, la vallée slovène de la Vipava subit de plein fouet les conséquences du changement climatique. Ses vergers, ses vignes souffrent de la sécheresse. Ses habitants tentent d'y faire face par différentes actions. En Slovénie, la vallée de la Vipava s'adapte au changement climatique. C'est un grand reportage de Agnieszka Kumor.
La Slovénie fait figure de bon élève dans l'Union européenne. En 2023, ce pays de 2 millions d'habitants, situé entre la Croatie et l'Italie du Nord, est parvenu à réduire de près de 10% ses émissions de gaz à effet de serre. Sachant que la France a baissé son bilan de seulement 1%, c'est un exploit. Pourtant, Sarah, une étudiante de l'université de Ljubljana, la capitale slovène, trouve que son pays pourrait mieux faire.
Ce n'est pas assez. Nous savons que les choses vont mal, mais on n'est pas conscient à quel point c'est critique.
Sa copine, Eva, la chevelure blonde au vent, acquiesce.
Le changement climatique, ça m'inquiète. J'essaye de faire de petits gestes pour la planète, mais tout le monde doit faire des efforts.
Everyone has to.
L'heure a sonné, les cours reprennent. Ces étudiantes ne le savent peut-être pas, mais c'est ici, à l'université de Ljubljana, qu'une initiative pour le climat unique en son genre est née il y a presque 10 ans. En 2015, Simon Kouchar, maître de conférences en géographie, rassemble autour de lui une équipe de chercheurs avec pour objectif de lutter contre la sécheresse dans une région de l'ouest du pays, la vallée de la Vipava. Un programme pilote est mis en route au sein de la commune de Miren Kostanjevica pour trouver des idées en collaboration avec les habitants et les autorités locales.
Des travaux d'aménagement de la rivière Vipava engagés dans les années 80 ont incontestablement apporté l'essor économique dans la région, mais ils ont aussi eu pour effet de nombreux problèmes environnementaux. Pour faire place aux cultures céréalières, on a coupé des arbres et des arbustes formant des barrières naturelles contre le vent. Ce vent d'hiver très fort, appelé Buria, provoque l'érosion des sols et la sécheresse. D'autres problèmes sont aussi apparus, comme des crues récurrentes qui inondent la partie basse de la vallée ou encore la perte de la biodiversité.
And of course, loss of biodiversity.
Pour endiguer ces phénomènes et pour rendre la rivière à ses riverains, des aménagements ont été faits grâce notamment aux fonds européens. Des haies vertes, des pistes cyclables, des lieux destinés à la baignade, à la pêche ou encore à l'observation des oiseaux.
Il n'était pas question de s'arrêter là. Il fallait proposer les solutions d'avenir. Toutes ces infrastructures que nous avons mises en place et que l'on appelle des infrastructures vertes ont prouvé leur utilité, non seulement du point de vue de l'environnement, mais aussi pour les nombreux bénéfices qu'elles procurent à la société et à l'économie. Nos idées ont fait tache d'huile. 6 municipalités ont joint leurs efforts pour déployer la vision pour la Vipava sur toute la région. Ces localités ont intérêt à travailler ensemble pour chercher des investissements, y compris des fonds européens.
To start tackling the problem of flooding of Vipava River.
Oh, pardon.
Nous quittons la trépidante capitale slovène à bord d'un bus plein à craquer. Des étudiants se rendent dans l'une des 6 écoles ou instituts scientifiques de l'université régionale de Nova Gorica. Après 1h30 de route, nous voilà dans un verger verdoyant. Des arbres fruitiers sont en fleurs. La vallée de la Vipava, Vipavska Dolina en slovène, nous tend les bras. Ivan Kodrić, agronome, consultant et agriculteur à la retraite, incarne à lui seul la mémoire de ces lieux. C'est un homme trapu et athlétique, malgré ses 70 ans, qui nous accueille dans son village de Berje. L'homme est inquiet.
Les températures montent et entraînent le bourgeonnement précoce. Cette année, on a une semaine d'avance par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année précoce. Les arbres fruitiers s'éveillent, les bourgeons éclatent, les fleurs s'ouvrent et les fruits se préparent. Mais si la gelée printanière arrive à ce moment-là, on risque de grosses pertes. Les aléas météo, on en avait déjà autrefois, mais jamais avec une telle fréquence.
Dans le verger de notre hôte, des pommiers, mais aussi des arbres à kaki ou à kiwi. Des oliviers reviennent dans la vallée, du jamais vu depuis qu'un terrible gel les a tous détruits en 1929. Du haut de la colline s'offre une vue plongeante dans la vallée, délimitée par deux massifs montagneux.
D'ici, vous voyez 10 villages, dont celui où j'habite, parsemés comme des champignons au fond d'une vallée. Le sol est encore trop humide pour les travaux des champs. On a eu des pluies pendant 2 mois, et maintenant il faudrait au moins une semaine pour sécher tout ça. Si l'on a la chance d'avoir du vent. Oui, ce vent violent qui provoque l'érosion des sols, il est aussi notre allié. Il assainit les plantes et les protège contre les maladies. On peut réduire drastiquement les épandages chimiques ou biologiques.
Also on the grapes.
Nous longeons un rang de vignes. Un ami vigneron s'approche pour discuter. Ivan Kodrić, dites-nous s'il vous plaît comment les techniques agricoles s'adaptent aux aléas climatiques.
Cet endroit en est un bon exemple. Nous avons aménagé ces larges terrasses à l'aide de bulldozers. Des petites terrasses à flanc de coteau existaient déjà, mais on les a agrandies. En été, on a des problèmes d'irrigation. Des pluies torrentielles tombent pendant une heure et l'eau s'écoule immédiatement. Une large terrasse comme celle-ci permet un bon drainage du sol. C'est aussi en arrosant de jeunes pousses avec de l'eau que l'on se protège contre un risque de gelée. L'eau se transforme en glace et libère des calories qui vont protéger le bourgeon.
Mais avec le changement climatique, le tissu social de la vallée est en train de changer, soupire notre hôte.
Si tu vends ta production de fruits directement au consommateur, tu gagnes un peu d'argent. Mais quand tu as affaire à un grand industriel, et il y en a un dans la vallée, il tire les prix vers le bas. La production de pêche n'est plus du tout rentable. Les anciens gardent les cerisiers et les abricotiers pour leur usage personnel. On peut louer des machines dans un centre municipal de transformation de fruits, mais en règle générale, les jeunes abandonnent cette filière. Seuls les vignerons s'en sortent bien, et ils sont nombreux dans cette région.
Only producers of wine are doing good when there are numerous.
Au fond de la vallée, les dernières bourrasques d'hiver s'en vont. Le printemps est déjà là. Les enfants jouent à la récréation. Deux écoles d'Aïdovchina sont trop petites pour tous les accueillir. Cette ville de 20 000 habitants devra se doter de nouveaux locaux, explique Yannis Furlan, directeur de l'Agence de développement économique.
Le principal changement, le véritable moteur de la croissance économique, a été la déclaration de l'indépendance de la Slovénie en 1991 et son adhésion à l'Union européenne en 2004. Ici, dans la vallée, l'agroalimentaire et la construction sont des secteurs traditionnels. L'industrie biotechnologique et pharmaceutique est en plein essor. La culture des arbres fruitiers et la viticulture restent importantes, mais ne sont plus des secteurs majeurs. Je n'oublie pas deux pépites slovènes issues de notre ville. L'une est une start-up, Tosla, l'un des principaux fabricants européens de produits à base de collagène liquide. L'autre, Pipistrel, le constructeur d'avions ultra-légers qui a été racheté il y a 2 ans par le groupe américain Textron.
L'homme n'est pas peu fier du certificat d'or d'excellence en développement obtenu par sa municipalité en 2024. La ville bénéficie du quasi plein emploi et de la bonne qualité de vie, mais pourrait mieux faire, pointe la presse locale pour ce qui est de la cohésion sociale, de la consommation d'électricité et de la quantité de déchets produits. Selon le directeur, le changement climatique cause bien des soucis. Une coopération transfrontalière s'impose.
Notre région fait figure de laboratoire pour tout type de catastrophes naturelles. Les dernières en date sont des glissements de terrain. Cela fait plus de 20 ans que l'on observe ce phénomène, mais il a pris de l'ampleur ces derniers temps. Environ 20 hectares de terrain se sont mis à glisser de la montagne au nord-ouest de la ville et menacent les habitations. On surveille cela de près. Parallèlement, deux projets avec la région italienne du Frioul-Vénétie-Julienne ont aussi vu le jour. Les deux régions se ressemblent et luttent contre les inondations. Ces projets sont très importants pour nous.
Selon une légende, la rivière Vipava est alimentée par sept sources. L'une d'elles se trouve au cœur de la ville du même nom. C'est là que nous retrouvons Melita Sternadlemut. Cheveux courts, démarche assurée, cette femme dirige le centre de recherche vitivinicole de l'université de Nova Gorica. Le centre occupe l'immense palais baroque, l'Antieri.
La ville de Vipava a une longue tradition de production de vin qui s'est ensuite propagée partout dans la vallée. Il y a une soixantaine de producteurs issus de familles de vignerons, mais aussi des néo-vignerons modernes, ambitieux. Leurs vins représentent des styles différents et sont d'une grande qualité. C'est la raison pour laquelle nous avons fondé une faculté viticole dans cette ville, au milieu du vignoble. Tous les enseignants mènent en parallèle des projets de recherche. Sans surprise, ce qui nous préoccupe le plus, ce sont des solutions aux problèmes auxquels le monde viticole sera confronté dès demain.
Des problèmes qui risquent de dénaturer la qualité du raisin, poursuit la chercheuse.
Notre variété de raisin autochtone, qui s'appelle Zelen, n'arrivait pas jusque-là à la maturité optimale. La hausse des températures y a contribué, mais il a perdu en acidité. On a donc décidé de récolter une partie de la vendange plus tôt pour bénéficier d'une acidité haute et le reste plus tard pour avoir plus de sucre. On vinifie les deux parties ensemble. Pour ce qui est du Sauvignon blanc, un coup de soleil sur sa peau fine se manifeste par des taches noires. C'est pourtant sous la peau du raisin que des arômes et des composants phénoliques se trouvent. On plante à présent du Sauvignon sur les coteaux orientés nord et donc moins ensoleillés. On connaissait ces phénomènes, mais on ne savait pas qu'ils arriveraient si vite.
Oui, le dérèglement climatique fait des ravages, mais les vignerons de la vallée de la Vipava s'adaptent pour sauvegarder le style de leur vin. Pour les aider à faire face aux défis, des variétés de raisins locales. Oubliées ou écartées pour des raisons économiques, ces cépages historiques pourraient apporter des solutions. Andrea Skvarc en est persuadé. Cette spécialiste dirige l'Institut viticole de Verkhpolye, où elle s'occupe de la sélection des plants de vigne. Elle nous emmène dans un endroit exceptionnel. Le conservatoire viticole, créé sur l'une des collines surplombant la vallée.
Cette parcelle de vigne où nous sommes est une banque de gènes. Plus de 200 variétés de raisins originaires du littoral slovène y ont été plantées. Sur deux petits panneaux placés au bout de chaque rang de vigne, vous pouvez lire leurs noms en slovène. Certaines de ces variétés, on ne les trouve plus dans notre région. Elles ont complètement disparu. Très rares, elles représentent le riche patrimoine génétique nécessaire pour préserver la biodiversité du vignoble. On compte croiser certaines de ces variétés anciennes avec leurs homologues internationaux pour obtenir de nouvelles variétés de raisins plus résistantes aux écarts de température et à la sécheresse afin d'en produire des vins de qualité.
L'homme qui nous a rejoints est Ivan Jeglina. Spécialiste des plantes, il attire notre attention sur l'impact des espèces invasives sur la biodiversité.
Chaque année, on a affaire à une nouvelle calamité. Actuellement, on craint l'invasion du scarabée japonais. Ce gros coléoptère s'attaque à de nombreuses plantes alimentaires et apprécie particulièrement la vigne. Cet insecte ravageur qui vient de l'est de l'Asie s'est propagé ailleurs dans le monde. Il a causé de gros dégâts en Ligurie voisine et on s'attend à ce qu'il débarque ici. Certains insecticides sont interdits en Europe. Nous allons devoir faire autrement. On peut notamment pulvériser de l'eau savonneuse sur les végétaux. Malheureusement, les pièges à phéromones qui provoquent la confusion sexuelle chez les papillons n'ont pas d'effet sur cette bestiole. On devra la surveiller de près pour savoir comment cette espèce invasive réagira sur ce territoire.
Si le transport des marchandises et des populations est la première cause de l'expansion des ravageurs, elle s'est largement accentuée avec la hausse des températures, souligne le scientifique. Ce phénomène menace la sécurité alimentaire mondiale. On considère qu'entre 10 et 16% des cultures mondiales sont actuellement perdues à cause des parasites. À quelques encablures de là, Jan Kotrost nous attend dans le village de Podnanos. Un petit cours d'eau apporte de la fraîcheur. Propriétaire du domaine viticole Vidus, Janko se souvient.
J'ai rempli ma première bouteille de vin dans les années 90. Mon père était alors à la tête d'un domaine qu'il a créé avec un demi-hectare de vignes. J'ai repris les rênes en 2005. Aujourd'hui, notre domaine compte 4 hectares. Nous avons pu réorganiser nos cultures et construire un nouveau chai. Le domaine n'a jamais connu de produits chimiques. Seul le soufre et le cuivre sont utilisés. J'ai planté quelques variétés internationales, mais je leur préfère nos cépages locaux. Le vignoble slovène est minuscule comparé au reste du monde viticole. Pour se différencier, nos vins doivent représenter quelque chose d'unique.
Le viticulteur cherche à racheter un terrain pour y planter des vignes, mais...
On a un gros problème avec certains animaux sauvages. Les cerfs raffolent des jeunes pousses de vignes. Et au moment des vendanges, les sangliers s'invitent dans les vignes et nous causent des pertes. L'année dernière, ils ont détruit 1000 pieds de vignes. Avant, il y a eu des exploitations laitières ici. Des vaches broutaient autour du village. Il en reste très peu. La forêt a pris possession des prés et des animaux sauvages s'approchent de plus en plus des habitations. Ils vont chercher l'eau au fond de la vallée. Matin et soir, des chevreuils défilent devant mes fenêtres.
L'écosystème de la Terre a été perturbé par l'intervention humaine. C'est dans la résilience de notre planète que l'homme devra chercher des solutions. Son avenir en dépend.
De retour de la vallée de la Vipava, Agnieszka Kumor, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service économie à RFI. À la fin de ce reportage, de la musique, du jazz, pourquoi ?
Je voulais montrer une sorte de contraste entre ce que les hommes ont achevé dans cette vallée, c'est-à-dire les erreurs ont été commises, mais il y avait un sursaut, on a compris les erreurs, on a remis relativement les choses en place. Et je voulais montrer justement la différence ou le contraste entre cet équilibre fragile à atteindre et l'intervention humaine, l'activité humaine qui va toujours apporter un certain déséquilibre, mais pourvu qu'il soit le moindre possible.
Résumé donc dans le jazz. Alors la Slovénie, ça n'est pas si loin de Paris, mais j'ai bien compris, Agnieszka, pour réaliser ce reportage, vous avez eu des hauts et des moins hauts.
disons-le, débat. Oui, les gens étaient très intéressés par le sujet, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Mais il y avait des déplacements en bus, ce que j'ai prévu parce que je voulais absolument être au plus près des gens, de comprendre. J'achète un billet sur Internet qui va de Podnanos à Koper. J'entre, je prends ma place dans le bus, très bien. Je me rends compte qu'on va dans un sens opposé, mais je me dis... Peut-être c'est pas grave, peut-être il va faire un détour. J'entends les gens acheter des billets pour Novagoritsa. Là, je me sens encore un peu moins sûr de moi. Effectivement, à 20 minutes avant l'arrivée, je pose la question. Il s'énerve, le chauffeur. Je suis arrivé à l'opposé de la vallée, c'est-à-dire à Novagoritsa. Je me retourne vers l'autocar pour chercher de l'aide, du soutien. Ben non, tout le monde me regarde avec les yeux de faïence. Et une dame me dit, mais tout le monde sait, madame, que pour aller de Podnanos à Koper, on change à Aïdovchina. Oui, tout le monde le sait, sauf une. Je suis retournée là où il fallait que je sois.
Alors, dans la vallée de la Vipava, Agnieszka, on l'a compris à l'écoute de votre reportage, il y a des vergers, il y a également des vignes. Je vous sais spécialiste et RFI de ce que produisent les vignes. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous avez goûté ?
Exactement. Il y a de très très bons vins en centre de l'Europe. J'ai surtout apprécié les vins blancs, très ciselés ou très épicés ou aromatiques. Ils sont très riches, bons, voire très bons, de très très bons producteurs qui ont opéré des conversions vers l'agriculture biologique, même voire biodynamique. Des gens inventifs, ambitieux, qui se battent tous les jours, comme tous les vignerons du monde, surtout dans l'hémisphère du Nord, avec le dérèglement climatique, le changement climatique. Beaucoup d'idées pour s'en sortir, pour sauvegarder le style de leur vin, qui est vraiment unique.
Alors, quand j'entends la liste de tout ce que vous avez goûté, Agnieszka, je comprends peut-être mieux les erreurs de transport. Ce n'est pas la première fois que vous vous rendez dans les pays post-communistes. Je sais que vous avez une attirance particulière pour ces pays. Est-ce que la Slovénie a confirmé votre passion, finalement, pour le bloc de l'Est ou l'ex-bloc de l'Est?
J'ai été en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, bien sûr.
Vous êtes
Moldavie, je suis polonaise, franco-polonaise. Tous ces pays m'intéressent. Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Ce grand laps de temps qui les séparait de l'Europe, c'était un retour à l'Europe, ils disaient toujours. Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Comment ils ont pu s'enrichir, retrouver leur bien-être? Voilà, tout ça, ça m'intéresse énormément, mais ils ne sont pas à l'abri de l'extrême droite, du populisme. On voit les mêmes phénomènes qu'ailleurs en Europe, mais aussi il y a des sursauts de conscience, des sursauts démocratiques. On l'a assisté ensemble à Varsovie pendant les élections parlementaires en 2023. Tous ces phénomènes m'intéressent parce que c'est vraiment un laboratoire humain, l'Europe.
Merci, Agnieszka Kumor, service économie de RFI, de retour de la vallée de la Vipava. Grand reportage, le supplément du samedi, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Tiffany Menta, Alice Ménard et Eva Piedel pour la réalisation. Rendez-vous demain, dimanche, 9h10 temps universel. Nous suivrons un jeune homme, Émeric. Il a cette particularité d'être handicapé, il est en fauteuil, seul, il ne peut rien. Émeric ne sait de rien, il est étudiant. 24 heures dans la vie d'Émeric, Laurence Théo s'est glissée dans son ombre. Et nous serons aussi dans le nord-est du Ghana, retour parmi les réfugiés chassés par les conflits. Cela fut les djihadistes du Burkina Faso. Caroline Chauvet nous y emmène. Le journal, c'est dans un instant.